Bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités en studio.
Ouais.
Qui travaillent ensemble. Trop bien. Alors, comment tu m'as dit, Alex, qu'il fallait que je prononce Harp Studio?
C'est Harp Studio.
Alors, on est avec Alex Giroir-Jourdain, vous venez d'entendre. Et on a avec nous Mickaël Simard. Bonjour, Mickaël.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Alors, avec vous, on va parler de ce que c'est, dans quoi vous travaillez, parce que c'est des spécialistes en création de contenu, donc toute une aventure. En deuxième partie d'émission, on parlera du festival Phénoména avec Claudia Chantac, qui est commissaire à la diversité, et Nathalie Claude, qui est maîtresse de cérémonie, comédienne, clown, enfin bien, elle a fait bien des choses. On en parlera avec elle aussi en deuxième partie. Pour l'instant, on part en musique avec Salomé Leclerc qui nous chante « La vie parfois ».
Tu es là si je pense refaire un tour. Je sais souvent c'est un long dimanche et tenter d'aller si vite ne change. Ce n'est pas grand-chose que des images en morceaux. C'est toi et moi, à toi le choix. Comment finir ça? Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut être beau. Si tu veux de
Alors voilà, on vient de les entendre. J'avais déjà commencé la conversation hors antenne avec Alex. Et alors, rebonjour à tous les deux. Comment ça se passe quand on devient spécialiste en création de contenu? C'est quoi en fait? Lequel des deux m'explique un petit peu comment ça fonctionne?
Ben, en fait, tu sais, la création de contenu, c'est parce qu'elle est de plus en plus présente aujourd'hui. C'est sûr que ça nous a donné, nous, l'occasion d'avoir beaucoup de travail là-dedans. Tu sais, les gens, les réseaux sociaux, c'est de plus en plus présent et tout. Fait que c'est sûr que c'est une opportunité de, tu sais, comment ça se fait. C'est, en réalité, c'est vraiment propre à chacun de comment est-ce qu'il veut bâtir son branding, si on veut.
Oui, mais tu les, l'un comme l'autre, vous les aidez à rêver quand même, parce que, tu sais, quelqu'un qui arrive, par exemple, qui va connaître rien, je donne pas d'exemple, mais moi, par exemple, je veux faire quelque chose, je sais pas toutes les possibilités qu'il y a, donc va falloir que tu m'expliques, que tu me racontes, que tu me proposes des idées aussi, en dehors de ce que je veux faire, qui serait peut-être petit par rapport aux grandes choses que l'on peut faire une fois qu'on a, tu sais, déplié tout ça.
Ben, tu sais, la façon que moi je le vois, c'est vraiment on forme une équipe aussi avec les clients, avec la personne qui veut créer son contenu. On embarque dans son univers, on apprend à connaître cette personne-là, ce branding-là, puis on crée tout ensemble. Moi, c'est vraiment ça que j'aime de notre travail, c'est qu'on forme vraiment une équipe avec nos clients à la place de comme... Je te donne ça, je veux ça, puis occupe-toi de la job. On a du fun.
Ben, tu sais, c'est ça qui est cool parce que, à exemple, si on recule une couple d'années, souvent avant, je sais pas moi, une entreprise arrive puis elle dit « Ah, c'est tel type de service qu'on offre à nos clients. » Nous, notre but, c'est d'être capable d'illustrer les valeurs de l'entreprise pour aller chercher plus le côté émotionnel du consommateur, puis pas juste dire « Ah, OK, t'offres tel type de service, on va filmer l'action. » On essaie de raconter des histoires, puis souvent, à date, on a des bons commentaires de nos clients parce qu'on arrive à aller chercher ce petit côté-là là, qui est comme plus irrationnel. Ouais.
En tout cas, c'est aussi pour chercher à faire rêver, parce que quand on a tout exact. Produit qu'on vend, quelle que soit la pub, faut faire rêver les gens dessus. Hein, donc, c'est votre boulot. Si vous rêvez avec le client, alors ça, c'est top.
Vraiment, vraiment. Puis il y a tout un côté artistique aussi, que ça vient juste chercher tout le monde. Puis c'est vraiment... Je pense que dans la vie, t'as du faut que tu aies du fun dans ta job.
Ah oui, d'accord,
on n'a pas le choix, fait que voilà.
Puis est-il... Ben, en fait, nous, je suis en train de dire, tu sais, nous, ça nous permet aussi de toujours se surpasser, parce que souvent, on a une idée, on est comme, on aimerait illustrer tel scénario, mais des fois, ça donne jamais comme on l'espère. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on doit tout le temps, comme, on apprend sur Internet, on se ressource pour tout le temps, comme, monter nous-mêmes la barre de notre création, tu sais.
Oui, puis des moments, ça peut être des bonnes surprises. Tu sais, c'est comme j'allais donner l'exemple presque comme en cuisine. Tu sais, des fois, tu fais une erreur, puis tu découvres un plat super bon que tu n'aurais pas fait au départ. Et là, c'est pareil. Il peut y avoir une création, il y a un truc qui ne se fait pas, mais tu as trouvé quelque chose qui fait que tu peux l'amener autrement. Donc, ça, c'est la possibilité. Maintenant, d'où vient chacun de vous? Alors, Alex, tu commences, toi
D'où je viens?
Ben, enfin, d'où tu viens? Pas d'où tu viens physiquement, mais d'où tu viens? Tu as dû avoir un papa et une maman, je m'en doute. C'était pas ça que je te demandais. Pour arriver à faire de la production audiovisuelle, c'est venu d'où? C'est ce que tu as toujours voulu faire? T'es venu par quel biais, par quel lien?
Personnellement, j'ai tout le temps baigné dans la photographie, mais plus un à côté pour le plaisir et tout ça. J'ai une formation en travail social, donc j'étais travailleuse sociale dans le passé.
Marc, ça aide pour écouter les clients.
Oui, puis avoir de la confiance aussi. Ouais. Avant, j'avais zéro confiance, j'avais de la misère à parler, j'avais de la misère à regarder dans les yeux. Fait que vraiment, cette formation-là m'a emmené ce que je voulais, c'est-à-dire la confiance.
Ouais, c'est important. Hein?
Puis par la suite, j'ai rencontré Michael, il m'a donné les opportunités, il m'a comme dit « Hey, ça te tente-tu d'embarquer dans des projets? » Il voyait, je pense que j'étais quand même originale, j'étais capable d'avoir des idées et tout ça, fait que j'ai décidé de changer de branche, tout simplement, de me lancer dans cette belle aventure-là. Et depuis, ça va faire un an qu'on forme cette équipe-là et qu'on a Harp Studio.
Et la photo fait toujours partie de tes amours?
Oui, mais plus dans la vidéo. À ce temps, c'est vraiment plus vidéo, mais j'en fais quand même la photo.
De quoi tu t'es rendu compte dans la vidéo? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus à partir du moment où tu as commencé à y mettre le nez dedans, les yeux.
En fin de compte, je pense que, tu sais, dans la passion, il faut aussi avoir un regard un peu de business, tu sais.
Oui.
Puis la photo, moi, j'ai tout le temps été passionnée de tout ce qui est mode, de vraiment le gros make-up, la grosse coiffure et tout ça. Puis malheureusement, c'est pas nécessairement facile d'être payée dans ce milieu-là. D'autres sortes de clientèles qui m'intéressaient moins, donc c'est pour ça qu'on avait plus de contrats tout simplement en vidéo, puis j'ai... T'sais, je veux dire, c'est deux... T'sais, la photo, la vidéo, ça se rapproche beaucoup. T'sais, comme moi, j'aime beaucoup la colorisation. Donc, moi, ça venait juste chercher tout ce que j'aimais, finalement.
Ben, t'sais, c'est ça qui est le fun. On a chacun nos forces, puis c'est même qu'on complète bien l'équipe. T'sais.
Ouais.
Et toi, Michael, comment t'es arrivé là?
Et là là.
Oh là, ça a l'air d'être une plus longue histoire pour toi.
Ben, en fait, tu sais, même chose, moi, je baignais beaucoup. Moi, j'étais un créatif à base, je veux dire, j'aimais ça, acheter un touche-tout depuis ma jeunesse. Là. Moi, je me rappelle, on est deux garçons à la maison. Mon frère, c'était le sportif. Moi, j'étais comme plus l'artiste.
Créatif, ouais.
Exactement. Fait que, tu sais, pendant que mon frère, il faisait du sport et tout, moi, j'étais tout à l'intérieur, plus jeune, je jouais au Lego, il fallait que toutes les couleurs fit. je faisais du dessin, j'ai fait des cours de dessin. J'ai aussi. Ben, tu sais, je disais que j'étais pas sportif, mais en fait, c'est faux parce que. J'aimais les sports individuels, sauf moi, c'était la planche à roulettes que je faisais, tous les sports de planche.
Ah oui.
Planche à roulettes, snowboard et tout.
Mais c'est du sport.
C'est du sport, c'est juste que je pense que c'est des sports qui sont plus individuels,
c'est
dans
pas
ta
des sports
tête.
D'équipe, ouais.
Puis je pense que je le vois un peu comme un art, parce que souvent, c'était dans les figures, c'était dans la beauté de. Tu sais, c'est comme le patinage artistique et
ah
tout.
Oui,
c'est du sport, sauf que c'est dans c'est d'être gracieux et tout. Fait que moi, j'étais plus axé vers ce type de sport-là. Puis plus jeune, je filmais des amis en skateboard, en fait. C'est que je volais la caméra à ma mère numérique, là. Puis j'allais dans le skatepark du coin, puis moi, je voulais faire du skate, mais je pense que j'avais pas assez de guts, comme on dit, là.
Oui.
Ça prend beaucoup de ça. Puis moi, je filmais mes amis, puis je les trouvais bons. Puis plus que ça allait, plus que je me suis dit, ben moi, j'aimerais ça être en arrière de la scène. Je les mettais de l'avant, puis je faisais du montage. Puis après ça, mes amis m'ont dit comme, « Hey, c'est vraiment cool ce que t'as fait et tout. » Fait qu'à partir de là, ben j'ai voulu créer une espèce de nom d'équipe à travers ça. Fait qu'ensuite de ça, j'ai dit comme, hey, on pourrait représenter notre propre marque. Donc, ensuite de ça, là, on recule en 2011-2012, c'est que j'ai fondé une marque qui s'appelait ARPS, en fait.
D'accord.
Qui voulait dire, des acronymes en anglais, Association of Real Passionate Skateboarders.
Ah, OK.
Et okay. Ensuite de ça, c'est devenu l'inspiration de... En fait, le S est devenu un peu comme une métaphore. J'étais comme « find your own S », la phrase anglaise qui veut dire « trouve ta propre voie, trouve c'est quoi ton propre succès ». Puis en fait, c'était un petit peu de là que les idées naviguaient. Puis là, plus que les années sont allées, bien, à un moment donné, ça naviguait à travers les événements, la création de contenu. Puis après ça, bien, c'est là que justement on croise des gens dans une industrie. Puis là, la marque de vêtements s'est transformée avec les années plus comme une agence créative qui, justement, Alex est arrivé puis a donné vraiment son gros grain de sel. Elle a vraiment ses grosses forces. Puis justement, après ça, elle m'a proposé. C'est à cause d'elle, en fait, qu'elle a dit, ben pourquoi on n'ouvrirait pas un studio, justement. T'sais, fait qu'elle est partie.
Parce qu'elle a bien le côté carré que toi, chez toi, c'est peut-être un petit peu plus arrondi.
Oui, exactement.
Elle sait mettre les
limites. La gestion.
Moi, on dirait que, je sais pas, je suis dans ma tête souvent et tout. Fait que c'est sûr, côté organisation, je veux dire, créativité, ouais. Tu sais, Alex, elle a tellement ses forces par rapport à justement, tu sais, elle... Tout ce qui est colorisation, tu sais, elle fignole beaucoup ça. Moi,
d'accord.
Ma grosse force, c'est plus, exemple, dans la direction photo qu'on appelle.
Ouais.
C'est qu'en réalité, moi, c'est les mouvements de caméra, c'est d'être capable de dire, je vais essayer de raconter une histoire ou comme mettre l'angle parfait pour que ça veuille dire de quoi.
Mais tu commences, bien sûr, comme tu as commencé, c'est normal. On continue dans un instant. On va faire une pause pour écouter Louis-Jean Cormier qui nous chante les lignes de la main. c'est vrai que j'ai oublié les quelques secondes qui restaient à la chanson. Excuse-moi. Alors maintenant, on continue avec Alex et Michael. Ce projet, cette entreprise-là, parce qu'il y a encore plein de chemins à faire, il y a plein d'ouvertures à faire. Quelles sont vos visions à l'un comme à l'autre de tout ça?
Ben en fait, c'est sûr que même nous, vu que c'est une, t'sais, on vient de partir le projet et tout, on navigue vers le type de clientèle qu'on recherche. C'est sûr qu'au début, on essaie plein de choses. T'sais, les gens nous approchent, fait qu'on refuse pas vraiment comme de projet si on veut, mais plus que ça va, plus qu'on réalise un peu le type de...
Ce qui vous fait envie.
Ce qui nous allume, exactement. Ouais. T'sais, nous, exemple, faire du corporatif pour des entreprises, on aime ça, mais... On veut toujours pouvoir rajouter une petite touche un peu plus créative. Comme là, on a commencé à faire des projets plus, tu sais, des vidéoclips.
Oui.
Quand on est dans le corporatif, on cherche des entreprises qui veulent faire de quoi différent des autres, qui vont nous laisser sortir des sentiers battus puis qui seront pas trop conventionnels. Fait que c'est sûr que c'est vers ça qu'on veut opter, là.
Exactement, ouais.
Toi aussi?
Ouais, oui, j'aurais pas mieux dit. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi de le voir de comme chaque... projet t'emmène quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une des choses du travail qui est important aussi, c'est d'apprendre constamment. Chaque projet nous emmène à en apprendre davantage. Fait que c'est sûr que le niveau créatif il est là dans tous les projets aussi. Là.
Bien, c'est parce que c'est dur aussi de se dire, parce qu'à chaque fois qu'on a fait un projet, ça se déroule jamais nécessairement toujours comme on veut. Il faut toujours improviser.
Bienvenue au club, c'est toujours pareil. Ouais. Mais c'est ça justement le fait d'apprendre. Après, c'est votre façon à tous les deux de savoir surfer sur la demande, de savoir prendre en compte ce qui arrive chez l'autre. Ça, c'est bien.
C'est ça. Il faut quelqu'un de moins stressé dans l'équipe. Moi, je suis bonne en gestion, mais je suis stressée, anxieuse.
La gestion du stress.
Je suis perfectionniste, je les ai toutes. Fait que lui, il m'emmène le petit côté de comme relax deux minutes, ça va bien aller, on va improviser, on l'a. Là. Fait que c'est cool.
Ah oui, ah là là, ça me rappelle des souvenirs. Non, mais c'est parce que c'est vrai, elle arrive, puis elle est comme à des idées, puis ça se passe pas comme on veut. Puis là, après ça, c'est comme... Il n'y a plus rien qui marche. Non, c'est pas vrai qu'il n'y a plus rien qui marche. On va. Mais c'est un petit peu comme tout ou rien. Mais tu sais, c'est une belle chose parce qu'au final, c'est ça, c'est le côté perfectionniste. C'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir un beau produit final. Oui. Puis on est rendu à l'étape aussi que, tu sais, vu qu'on se connaît bien, on se parle pas puis on sait un peu c'est quoi nos rôles. Ça fait juste s'y aller tout seul. Fait tu sais, on se pose pas la question autant en post-production qui fait quoi. Ça vient tout seul. T'sais. Fait que je pense que les clients, ça le ressentent aussi. Là.
Mm. Ah oui, c'est ça, la post-production aussi, c'est tout un travail. Hein?
Ah oui, oui, oui. Oui, mais c'est ça, on a chacun nos spécialités, puis nous, on n'a pas étudié là-dedans. Fait que merci YouTube, parce qu'honnêtement, on apprend tout de là. Fait que, tu sais, il faut constamment retourner.
Mais après, c'est la passion, parce que quand tu dois apprendre quelque chose, et puis que tu n'es pas passionné dessus, tu as envie de faire... Tu m'as compris, tu souffles, tu regardes ça, puis ça te paraît hyper dur. Tandis que quand t'es passionné, on t'apprend quelque chose, et puis toi, ça t'amène à te poser des questions qui t'ouvrent d'autres horizons et qui t'ouvrent et qui permettent de faire quelque chose de spécial, quoi.
Ben, tu sais, moi, personnellement, je préfère tellement avoir 7 jours sur 7 la compagnie ou nos projets dans la tête, puis de pouvoir être libre, justement. Tu sais, on parle du travail, mais qui accompagne notre quotidien. Tu sais, je veux dire, au bout de l'année, oui, c'est une passion, puis des fois, c'est nous autres qui se dit comme, OK, à soir, on prend ça relax, on se défait la tête, mais on aime tellement ça qu'effectivement, on le voit plus comme une job, tu sais.
Ben moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'apprendre et d'être sans arrêt en train d'apprendre. Voilà. Mmh. Alors, on parlait de ça, de l'importance de se former, mais quand vous vous formez, c'est chacun sur quelque chose de différent ou c'est sur la même chose?
Non, assez souvent, c'est des choses différentes parce que vous ne voulez pas... je veux dire, de passer toutes les deux du temps à regarder les mêmes tutoriels, de se former dans les mêmes choses... C'est super pertinent. On essaie toujours de se donner l'information quand même pour être en mesure de le faire pareil. Mm-hmm. Mais c'est sûr que d'avoir chacun nos spécialités, je trouve personnellement que c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour notre équipe,
Pour le futur de
ouais,
tout
ben,
ça.
Oui, bien, c'est ça. Tu sais, comme Alex a dit, en fait, c'est bien parce que au bout de la ligne, si, exemple, il y en aurait un des deux qui devrait faire un projet, exemple, au complet tout seul, on est capable. Tu sais, les deux, on est capable de faire le projet de A à Z, sauf qu'effectivement, quand que ça arrive, exemple.
Ça stimule à deux.
Ben oui, oui. Tu sais, je veux dire, exemple, je sais pas, moi, dans une vidéo, comme ah, OK, je vais faire le montage principal puis je vais faire la coloration. Comme ça, moi, déjà là, ça m'enlève ma tête de dire, comme OK, cool, j'aurais pas besoin de me casser la tête à faire la colo parce que je le sais qu'elle a étudié plus ça que moi dans les dernières semaines, mais pendant que moi, je sais pas, j'ai étudié plus, exemple, l'audio. Fait que comment mieux balancer le son. Fait qu'au bout de la ligne, quand les deux ont fait le montage, il est beaucoup plus incroyable.
D'accord. Alors, dernière question, comment on fait pour se démarquer, pour être une équipe différente des autres?
Moi, je dirais l'authenticité. Faut être très authentique avec les clients, faut les embarquer dans l'aventure. Tu sais, à quelque part, un tournage, c'est une aventure. Faut que ça soit le fun, faut que ça soit professionnel aussi. Il y a un juste milieu quand même. Puis d'être authentique, d'être honnête, c'est vraiment comme ça, je le vois. Là. Je sais pas, Mick.
Ben, effectivement, tu sais, je veux dire, c'est exactement ça. Notre authenticité, c'est parce qu'on n'essaie pas de se créer non plus un personnage. Tu sais, on est nous-mêmes. Puis, ben, c'est sûr que des fois, dans nos vidéos promotionnelles à nous-mêmes, quand on fait notre propre branding, on aime ça en rajouter plus juste pour comme rendre ça encore plus avec des paillettes. Mais reste que notre base est là. On est nous-mêmes. Tu sais, je veux dire, on arrive sur un set, on n'essaie pas d'avoir de l'air coincé ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'on est toujours courtois, on est professionnel, comme Alex a dit, mais. On essaie d'être nous-mêmes puis d'être différents. Plus excentriques des fois aussi.
C'est ça.
Mais c'est bien parce qu'en même temps, ça aide. Et puis peut-être, tu sais, plus tu es professionnel, mais tu le fais gentiment, justement en étant authentique et en étant calme ou tout. Et ça détend celui qui est en face et qui doit travailler avec vous. Ça lui donne aussi une impression de facilité que peut-être vous n'avez pas derrière parce qu'il y a du boulot, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça le laisse juste dans le plaisir.
Oui, dans la confiance aussi. Mais
tu sais, être professionnel en 2021, pour vrai, aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup évolué parce que les gens avant, c'était comment, il fallait que tu aies une attitude quand tu es professionnel, mais en réalité, le monde aime aussi se sentir familier.
Oui,
familiarité,
c'est tellement
cherché. Oui, exactement, c'est pas parce qu'on travaille avec un client que forcément, il veut sentir que quand même, on est un ami avec lui, tu sais. Puis je pense que ça change vraiment la donne aujourd'hui sur comment est-ce qu'on peut travailler.
Ben voilà.
Puis exactement, tu sais, on s'entend, les clients maintenant, ils veulent du contenu à l'année. Ouais. Fait que tu sais, finalement, tu développes une relation à l'année. Mm-hmm. Là, c'est plus un projet, une vidéo au mois de mai, puis c'est fini, là, tu sais, c'est à l'année. Fait que c'est super aussi de créer ces relations-là.
Eh ben, merci à tous les deux parce que mine de rien, ben, on est arrivé à la fin de l'entrevue.
Oh, hey, ça a passé vite.
Alex, merci
Mickaël.
De l'invitation.
Merci beaucoup.
Alors on répète le nom du studio avec l'accent parce que tu fais ça super bien.
Herb Studio.
Alors quand vous allez taper, c'est ARPS Studio, voilà, et vous en saurez tout sur Alex et sur Mickaël. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez avec moi jusqu'à la fin de l'émission. On va avoir d'autres invités. On va parler du festival Philomena.
Absolument. Yes, sir. Merci.
C'est la première fois que je te revois. Les lilas en fleurs, j'ai appris par cœur toutes les rues communes hors la loi. C'est la première fois. J'ai fait vœu de sagesse, j'ai changé d'adresse, tout prévu pour être loin de toi. Montréal, t'étais portée disparue. Montréal, je t'avais pas retenu. Tu t'étais dit parti pour la gloire et tu m'en veux d'avoir découpé la bande. Sur les containers, bienvenue à Jajag et Oshilaga. C'est la première fois.
Bien, voilà, on vient d'entendre... Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, d'ailleurs? Je ne sais plus.
C'était Lydia Kipinski.
Oui, c'est Lydia Kipinski qui chantait « Montréal me déteste ». Oh là là, je perds la tête. Hein. Tu vois, j'étais en train de parler. Donc, on reste tous ensemble parce que dans la deuxième partie de cette émission, on va parler du festival Phénoména. Donc, avec Nathalie Claude d'abord et Claudia Chantac ensuite. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. A tout de suite.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Encore une fois, tu veux play avec moi et je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Ah, t'as bien joué.
Alors, on vient d'entendre Louane qui nous chantait Game Girl. Voilà. Alors, est-ce qu'on a Claudia en ligne? Claudia Chantac. Bonjour, Claudia.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Oui, ça va bien. Alors, Claudia, ben, d'abord, bienvenue dans l'émission. Et merci. Puis, Claudia, vous êtes... alors, on va parler du Festival Phénoména. C'est ce que j'ai annoncé en première partie d'émission. De votre côté, vous êtes commissaire à la diversité. Qu'est-ce que ça veut dire, commissaire à la diversité? Qu'est-ce que ça englobe?
Oui, c'est une très bonne question parce que c'est aussi un tout nouveau rôle qui a été créé cette année par la directrice artistique et générale du festival, qui est Dékim. Et en fait, c'est un peu une réponse à toutes les questions, les débats qui sont apparus dans la dernière année concernant la diversité, l'inclusion, le racisme,
ah oui.
Le besoin de voir de nouveaux visages. Et elle a eu envie de s'entourer de quelqu'un pour venir réfléchir avec elle puis vraiment mettre des actions en place. Et j'ai eu la chance d'avoir ce rôle. Et en tant qu'artiste pluridisciplinaire, j'ai créé des événements et des activités pour mettre de l'avant des artistes de la diversité provenant de la danse, du spoken word, de la musique et de la vidéo. Et juste m'assurer, en fait, qu'on soit là puis qu'on a une place pour célébrer nos identités culturelles, artistiques et personnelles. Et j'ai concocté deux soirées spécifiquement qui s'appelle Mixtape côté A, côté B.
Et A, côté A, côté B. C'est pour ça que j'avais
exactement.
Vu deux soirées, oui.
Oui.
Alors,
exactement.
C'est quoi ces soirées?
Oui. Alors, les deux soirées sont faites dans la même structure, qui est une première partie musicale. Et ensuite, dans la deuxième partie, j'ai invité trois artistes qui ne se connaissaient pas pour créer ensemble. Donc, mon but, c'était de créer des nouvelles rencontres entre artistes BIPOC pour qu'on se rencontre puis qu'on crée ensemble dans des espaces de création et artistique. Et
c'est de la création, je m'excuse de vous couper, c'est de la création musicale?
C'est la création en danse.
En danse, d'accord.
Danse, oui, exactement, avec une autre discipline. Donc, c'est ça, le public va pouvoir voir en primeur qu'est-ce que ces artistes ont créé ensemble. Donc, la première soirée, côté A, j'ai un chanteur malgache qui va signer la première partie du spectacle. Et ensuite, le trio, j'ai Cindy Belotte qui fait de la danse africaine, j'ai Arlene Bogal qui fait du spoken word et Isabelle Pin qui fait de la danse contemporaine. Et elles vont signer la deuxième partie de la soirée. Et le lendemain, pour le côté A, j'ai Brenda Frère qui vient de la Colombie, qui va chanter. Et ensuite, en deuxième partie, j'ai une nouvelle création de Justin DeLuna en danse contemporaine avec Ford McCohen LaRose en danse urbaine, avec qui j'étais Alexandra Chizo-Veillette, qui est une artiste vidéaste autochtone.
Alors, est-ce que c'est la danse votre c'est plus la danse votre coup de cœur dans tout ce qui est présenté?
Oui, moi je viens du milieu de la danse contemporaine, donc c'est vraiment ma discipline chouchou et je trouve qu'on a besoin de plus de place pour la danse.
C'est vrai.
Dans le milieu montréalais, puis aussi des lieux pour expérimenter, se rencontrer puis se laisser aller dans la création, puis le festival Phénoména est la meilleure place pour ça, pour créer, pour s'éclater, pour tenter des choses, puis le public est tellement un beau public qui nous encourage dans nos démarches, dont on s'est grandement ennuyé. On a hâte de les retrouver dans des salles de spectacle, et c'est vraiment le moment parfait pour expérimenter.
Alors, est-ce que vous êtes danseuse. Est-ce que vous avez déjà fait partie du festival?
Oui, moi, je connais le festival depuis 2013. J'ai eu la chance de danser pour les Sœurs Schmidt. J'ai pu présenter des créations aussi, mais je l'ai aussi vraiment connue comme spectatrice, ce festival-là. En ce moment, il y a une super belle exposition de Caroline Ayer qui retrace
oui,
plein
vu
de photos
ça.
Oui, du festival des 10 dernières années. Puis quand je suis allée voir l'expo, j'ai été tellement émue parce que j'ai reconnu des pièces dans lesquelles j'ai dansé. J'ai reconnu plein de visages de gens que je connaissais, de shows que j'avais vus. C'était super émouvant de juste remarcher à travers l'histoire du festival Phénoména qui occupe l'espace du Mile End et du plateau Mont-Royal depuis des années. C'est très beau, moi je trouve ça magique.
Ben oui, et ça fait 10 ans. Alors, j'ai des invités en studio qui ne connaissaient pas ce festival. Alors, pour ceux qui seraient comme ça aussi, qu'est-ce que c'est? Comment on l'explique?
Mon Dieu, le festival Phénoménal, je dirais que tout d'abord, c'est super coloré. C'est fleuri, c'est déjanté. Il y a 2 ans, avant la pandémie, on a fait une super belle parade phénoménale où tous les gens étaient costumés, c'était tout le quartier. Il y a quelque chose de très esprit festif. Il y a des œuvres de Lucie Bazo partout dans les rues du Myland aux couleurs du festival. Fait qu'il y a vraiment quelque chose d'englobant, underground pour attirer tout le monde puis créer vraiment une vie de quartier super importante.
Alors, une question, vous avez? Non? Point.
Non, moi, bon. Moi, j'écoute, je bois ses paroles, puis je trouve ça...
On écoute avec
ouais,
passion.
Oui, ouais, vraiment, vraiment.
Parce qu'ils font de la vidéo, sont des artistes. Alors, c'est pour ça aussi qu'ils sont intéressés par ce qui est fait dans le festival. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir?
Ce soir, ça se passe à La Chapelle. C'est un superbe duo, Geneviève et Mathieu.
Ah oui, on les a reçus.
Très éclaté. Ah, ben
pour Monsieur Gros.
Oui.
Ah
oui.
Ouais.
Moi, je les découvre ce soir aussi. Je suis bien excitée. Sinon, il y a plein d'activités d'ici le 22 octobre. Il y a des expositions, il y a des shows dans les parcs, tu sais, parce qu'on savait pas avec la pandémie si on allait pouvoir être en salle ou à l'extérieur. Fait qu'on a vraiment créé une programmation double pour comme mettre toutes les chances de notre côté. Il y a un superbe cabaret Dada qui est très à l'image du festival. Malheureusement, c'est sold out. Fait qu'on commence à créer des listes.
Ah, d'accord.
D'attente. Sinon, il y a un superbe spectacle qui est un collectif que Dekim a créé pour les artistes sourds et c'est en langage des signes. Fait que ça, c'est vraiment un show à découvrir. Tu sais, moi,
je suis
comme commissaire à la diversité culturelle, mais il existe plein d'autres diversités et on trouve ça très, très important de les avoir dans notre programmation aussi. Donc, ça s'appelle L'œil éveillé et ça, c'est vraiment à voir aussi.
Bah oui, j'avais vu ça, le collectif L'œuf, l'œil éveillé. Pourquoi l'œuf? Ça y est, autant pour moi, j'en bégaye, l'œil éveillé. Oui, parce que il y a des choses qui sont faites avec des personnes sourdes.
Sourdes et malentendantes.
Sourdes et malentendantes, voilà.
C'est une chose qui est très belle avec le festival Phénoménal, c'est que Dekim s'est toujours permis de créer des relations sur plusieurs années avec des artistes. Donc, il y a des artistes qui reviennent à chaque 2 ans, à chaque 3 ans, qu'on peut voir aussi comme public évoluer. Et elle a eu envie de créer un collectif pour aider ces artistes-là non seulement à créer ensemble,
ça,
mais
c'est
aussi
formidable,
à se professionnaliser.
J'adore.
Ouais, elle les aide à écrire des demandes de subvention, à préparer des horaires de répétition, etc. Tout ce qui est autour de la création d'un spectacle. On pense que c'est simple, mais ce n'est pas du tout. Donc, il y a vraiment cette belle relation-là que je trouve essentielle. Moi, j'ai eu la même expérience avec les artistes de ma programmation. Je leur ai trouvé des partenaires pour avoir des de danse. J'ai été en contact avec le magazine électronique Sticky Rice Magazine, qui est pour les communautés asiatiques. Donc, on a une super autrice, Angelina Guo, qui a écrit un article sur chacun des artistes des soirées, parce qu'on dit « Oh, on vous voit pas », mais là, c'est faux. On a plein d'articles, on a plein de photos, puis on existe, on a besoin d'être sur scène.
C'est bien. Est-ce que vous avez aussi appris la langue des signes?
Mon Dieu, non, je suis pas. J'essaye de maîtriser mon cantonais. J'aimerais beaucoup. Fait que là, j'y vais une langue à la fois.
Oui, mais c'est vrai qu'après, au niveau de la danse, s'il y a quelque chose qui serait plus difficile à faire quand on est malentendant, c'est bien la danse, puisqu'il faut bouger sur de la musique.
Oui, mais je pense qu'il existe plein de stratégies pour.
Il y a des moyens de faire un.
Ouais, les vibrations, l'écoute des autres corps. Puis là, je ne veux pas parler parce que je n'y connais pas, mais je connais des danseurs qui sont malentendants puis qui trouvent plein de stratégies pour... De toute façon, moi, je pense que tout le monde peut danser.
Oui.
Qu'on soit professionnel ou pas. Fait qu'il y a toujours moyen d'utiliser son corps pour s'exprimer.
C'est vrai, ça, je ne parlais pas de ne pas pouvoir danser, je parlais dans le sens où quand il faut suivre une mélodie, enfin, c'est vrai qu'on peut suivre un autre danseur ou une autre danseuse, effectivement, ouais. aussi. Mais après, c'est tout de la créativité, hein. C'est des choses auxquelles on ne pense pas parce que quand on n'en a pas besoin, on n'y pense pas.
Oui, c'est exactement. Ça aussi. Puis en plus, le langage des signes, ce qui est très beau, c'est que c'est dans le mouvement. C'est en soi, ça a son propre rythme, sa propre visuelle qui est très, très magnifique. Vraiment à découvrir, là, c'est très rare qu'on ait ça sur scène, fait qu'il faut se garrocher en salle pour découvrir ça.
Donc, cette nouvelle place que vous entamez cette année, ça vous plaît, donc ça va être, ça va être reconduit?
Bien, je ne le sais pas encore officiellement, mais c'est sûr que c'est une très, très belle rencontre avec des Kim. Puis, sur le plan personnel, je vous avoue que dans les dernières années, tous les débats, tout ce qui s'est passé, c'est très déstabilisant. Surtout quand on est artiste, on sent qu'on a besoin, en tout cas, moi, je sens que j'ai besoin de faire changer les choses. Puis je pense que je suis pas la seule. Et je me dis que plus on donne de la place sur scène, mais aussi des rôles avec pouvoir, des rôles décisionnels à des gens de la diversité, mais c'est là que les choses vont réellement changer. Je pense qu'il faut changer sur tous les plans. Il faut s'assurer aussi que le public est diversifié. Fait que c'est, moi, ça m'allume beaucoup. Je ne sais pas si vous le sentez.
si, je sais bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça parce que c'était un bon moment à apprendre et à savoir. Et là, bah, on va continuer avec le festival, mais on va appeler Nathalie Claude maintenant. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claudia. C'était un vrai plaisir. Merci. Et puis maintenant, j'ai compris ce que c'est que commissaire à la diversité.
Génial.
Au revoir.
Au revoir.
Un petit peu de musique.
Je vais vous présenter une scène, dans le fond, instrumentale qui se prénomme Summer Means a New Love.
Tu dis ça tellement mieux que moi. Quelle belle voix, Nicolas. Merci. Alors maintenant, on est avec Nathalie Claude. Bonjour Nathalie.
Eh hey, bonjour.
Alors Nathalie, je ne sais pas, ça va me prendre au moins 2 minutes pour dire tout ce que tu fais, comédienne, metteur en scène, danseuse, chorégraphe, autrice, maîtresse de cérémonie, musicienne, clown, j'adore, et coach artistique aussi.
Oui, alors, il faut bien quelques cordes à son arc hein, pour survivre dans ce monde d'artistes.
C'est bien vrai. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi le festival Phénoména?
Ben, écoute, au départ, je te dirais, le festival Phénoména, pour moi, c'est vraiment un festival qui a une place très, 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 très chère dans mon cœur. Parce que je trouve que c'est un lieu où tout est possible, tout est ouvert. Je trouve que sa directrice artistique des Kim, en elle-même, a et déploie une énergie tout le temps renouvelée. Elle a le cœur ouvert et elle est toujours remplie de nouvelles propositions, va chercher des gens nouveaux, redéfinit son festival, gratte, pousse, cherche. Et j'ai énormément de respect pour ce festival, les gens qui s'y promènent, qui s'y aventurent. Et justement, j'ai l'impression que quand on est au Festival Phénoména, on peut vraiment se permettre de chercher, de creuser, de gratter. Il y a une grande, grande liberté. Et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de, je te dirais, un esprit de joie de vivre, de camaraderie. Et je trouve que pour moi, c'est un lieu unique, 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 qui mélange musique, poésie, cirque, clown, théâtre, art visuel. C'est vraiment, vraiment un festival que, voilà, que j'adore. Puis c'est toujours un plaisir d'y revenir. Oui. C'est comme, c'est, pour moi, c'est comme une nourriture artistique, humaine. Ouais.
Me doute. Une maîtresse de cérémonie, c'est quelqu'un qui va présenter les autres?
Exactement, maîtresse de cérémonie que j'ai fait quelques fois, plusieurs fois dans ma vie, dont un cabaret dada surréaliste.
Oui, voilà.
En 2009, qui était à l'époque avec le festival Voix d'Amérique. Donc, c'était au départ, les cabarets dada se sont faits à travers ce festival qui est devenu le Festival Phénoména. Mais oui, maîtresse de cérémonie, c'est une maîtresse de cérémonie qui anime finalement les soirées. Mais c'est pas le cas cette fois-là. Ça va être l'extraordinaire Alexis O'Hara qui va être la maîtresse de cérémonie.
Alors, et toi, ce que j'aime, alors comédienne bien sûr, comédienne, mm-hmm. metteur en scène, ça, danseuse, chorégraphe, tout ça, autrice, on connaît, mais clown, j'adore.
Ben, ça a été comme un accident, je dirais, de parcours.
Ah d'accord.
Oui, vraiment, malgré moi, c'est comme si, sans m'en rendre compte. Dans mon travail, je me suis glissée de plus en plus dans une avenue qui s'apparentait au clown. Et c'est vraiment en créant beaucoup de solos. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail solo en particulier, qui se sont avérés assez clownesques. Et ça m'a tout ça amené à me pencher sur c'est quoi le jeu clownesque, m'intéresser. Et ben écoute, ça m'a amené à travailler au Cirque du Soleil comme coach artistique pour aider beaucoup les clowns dans leur recherche de numéros et tout ça, dans des nouveaux spectacles. Et je me suis retrouvée moi-même clown en 2012. Donc en 2012, entre 2012 et 2015, j'ai quitté Montréal pour faire un personnage clownesque. On m'a invité à aller jouer. À faire un clown masculin dans la nouvelle création qui était à l'époque qui s'appelait Amaluna, mis en scène par Diane Paulus, qui est une metteur en scène de New York. Donc, je me suis retrouvée à jouer une espèce de pirate galant avec une clown qui, elle, jouait la contrepartie amoureuse de ce duo improbable. Puis, on était un peu le reflet des amoureux sérieux et romantiques dans le spectacle du cirque. Nous, on était le penchant comique, tout ça. Donc, je me suis trouvée à faire ça aussi. Donc, c'est intéressant. C'est pas quelque chose que j'avais prévu du tout comme comédienne de théâtre, mais c'est arrivé dans ma vie et ça l'a collé. Donc, voilà.
Ben, je trouve ça super. Et en même temps, par rapport à tout ce que tu fais, c'est ce que je trouve de plus effrayant, moi, de mon côté, de mon point de vue.
Oui, je comprends.
D'être clown parce qu'il faut vraiment réussir quelque chose, amener les autres à rire et à se détendre face à toi. C'est tout un travail. Enfin, je
aussi,
pense.
C'est quelque chose de très subjectif dans le sens que on va pas rire du tout de la même chose. Personne.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est très dur de comprendre où on est avec un nouveau numéro, par exemple, où on se situe, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et c'est très, très, très pointilleux parce que chaque personne ne va pas rire à la même chose. Je crois, pour moi, une des clés, et ça, c'est moi, là, c'est moi, mes clés à moi dans un univers plus clownesque, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose d'extrêmement profond. Même, je dirais, pour moi, c'est vraiment, il y a un drame dans le jeu clownesque. C'est là que ça commence à être vrai. C'est quand c'est vraiment basé dans quelque chose qui a des racines très profondes, dans une tristesse, dans un doute, dans une insécurité. Pour moi, c'est là que le rire arrive. C'est pas faire rire pour faire rire, c'est vraiment plonger dans quelque chose de, oui, de très dense. Et moi, dans un sens complexe, et c'est ce qui m'est arrivé en faisant mes solos à l'époque. Tu sais, mon premier solo, ça a été, je le savais pas, j'ai dit oui, ok, je vais faire un solo. Et mon père est décédé et j'ai fait, ben, je vais faire un solo, wow, pour mon père. Et ça a été mon premier solo et c'était très tragique, mais très, très comique. Et ensuite, ben, ça continue comme ça. Mes thèmes étaient toujours assez intenses, assez durs, mais j'en faisais des œuvres clownesques, tu sais.
Bah, bravo, parce que alors là, un truc comme ça, c'est pas du tout évident. Eh bien, écoute, Nathalie, merci beaucoup de nous avoir répondu à tout ça. Est-ce que tu es dans un des spectacles cette année?
Oui, donc c'est ça, dans le cabaret Dada. Donc cette année, il y a le cabaret Dada pandémique qui va être animé par Alexis O'Hara. C'est au Festival Phénoména demain et vendredi 14-15 octobre 20h à la Sala Rosa.
D'accord.
Présentez-vous à la porte. Rendu là, je pense qu'il y a beaucoup de billets qui sont vendus. Il en reste très, très peu. Mais venez vous présenter, puis qui sait, vous allez pouvoir entrer et venir voir ça.
Bien, merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation. Au revoir.
Merci, au revoir.
On lance.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. J'avais pas vu Mirza. Oh là 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 là. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh,
Satan et Mirza. Ah voilà, on vient d'entendre chanson souvenir, Nino Ferrer qui nous chantait Mirza. Pour ceux qui ne connaissent pas, oui, ça date de longtemps, avant votre naissance à tous les trois. Mais bon, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, on remercie Alex Giroir-Jourdain. Merci Alex. Merci Michael Simard, c'était un plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci à Claudia Chantag et à Nathalie Claude qui était commissaire à la diversité. Nicolas, merci beaucoup, tu as été le meilleur comme d'habitude. Et à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, ben on se donne rendez-vous demain, puisque demain nous sommes jeudi. Je ne sais plus parce que j'ai commencé la semaine à mardi, moi je suis complètement à l'envers. Donc rendez-vous demain jeudi. Qu'est-ce qu'il me dit Nicolas?
Hein?
Qu'est-ce que tu me dis Nicolas? Rendez-vous, tu seras là?
Ben oui, définitivement.
Tu seras là parce que j'ai besoin de toi parce que sinon l'émission ne peut pas se faire. Hein.
Moi, je suis toujours là, je suis là chaque semaine.
C'est bien beau de parler dans le poste, mais si on n'a pas la technique qui nous suit, ben on parle tout seul dans le poste. Voilà. Donc bon retour chez vous à tous les deux.
Merci.
Et puis
merci.
Une bonne. Je vous souhaite écoute, plein de bonnes choses, plein de très belles réalisations. Puis On se recroise tout bientôt.
Yes, merci, okay. Pareillement. Bye bye.
Bye bye à tous. Au revoir.